Bonjour, je m'appelle Marc, bienvenue au quatrième épisode du Bonheur pour tous, le podcast pour réapprendre le bonheur. Pourquoi est-ce que je dis réapprendre ? Parce que je suis persuadé que chacun de nous vient au monde prêt pour être heureux et que si on reprend contact avec ce naturel qu'on a malheureusement appris à oublier mais qui est encore en nous, alors on peut retrouver le bonheur parce que notre nature c'est de vivre heureux. Donc ici mon but est de partager avec vous les meilleures informations que j'ai trouvées pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, je vous ai préparé le quatrième chapitre du livre audio « La communication non violente » de Marshall Rosenberg. C'est un livre audio en anglais que je suis en train de traduire en français parce que parmi tout ce que j'ai lu ou entendu dans ma vie, c'est ce que dit Marshall qui me paraît le plus important à savoir pour être heureux. Chapitre 4 « Communication sans jugement » Rumi, le célèbre poète soufi, a dit « Au-delà des idées de faire le bien et faire le mal, il y a un champ. Je t'y retrouverai. » C'est dans cet endroit-là que la communication non violente nous aide à vivre. C'est un monde bien différent de celui où l'on fait soit le bien, soit le mal, de celui où on décide si quelqu'un mérite de souffrir ou mérite d'être récompensé. Dans le monde dont parle Rumi, on voit que notre nature est de donner avec compassion et on voit quelle est la façon de vivre qui nous comble le plus. Bien avant que j'atteigne l'âge adulte, j'avais déjà appris à communiquer par des jugements impersonnels et moralisateurs. Ceci ne demande pas de nous que nous révélions ce qui est vivant en nous en cet instant, il nous demande simplement de juger les gens. Quand je me retrouvais face à des gens ou face à des comportements que je n'aimais pas ou que je ne comprenais pas, mon éducation était de réagir en termes de ce qu'ils faisaient de mal. Si mes professeurs me donnaient un devoir que je ne voulais pas faire, ils étaient méchants ou pas raisonnables. Si quelqu'un coupait devant moi dans la circulation, je pouvais réagir en pensant ou en disant « Quel idiot !» Quand on parle ce langage, on pense et on communique en termes de ce qui cloche chez les autres pour se comporter comme ils font. Ou bien ce qui ne va pas bien chez nous-mêmes pour nous comporter comme nous faisons. Notre attention est occupée à classifier, analyser et déterminer des niveaux de tort, plutôt qu'à savoir si c'est quelque chose qui est utile à la vie ou pas. Lorsque je communique de la façon dont j'ai été programmé pour communiquer, si ma compagne veut plus d'affection que j'en donne, elle est collante et dépendante. Mais si moi je veux plus d'affection que j'en reçois, alors elle est froide et distante. Si ma compagne fait plus attention aux détails que moi, elle est pinailleuse et obsessive. Si au contraire c'est moi qui ai plus préoccupé qu'elle par les détails, elle est peu soigneuse et désorganisée. Je suis persuadé que toutes ces analyses que nous faisons d'autres êtres humains sont des expressions tragiques de nos propres besoins et de nos valeurs. Tragiques parce que quand nous exprimons nos valeurs et nos besoins de cette façon, nous favorisons les protestations et la résistance précisément chez les personnes dont les comportements comptent le plus pour nous. Ou alors, si ces personnes acceptent d'agir en accord avec nos valeurs, parce que nos analyses de leurs torts leur paraissent valables, leurs actions seront probablement motivées par la peur, la culpabilité ou la honte. Et nous payons tous très chèrement quand les gens répondent à nos besoins et à nos valeurs, non pas à partir d'un désir de donner du fond du cœur, mais par peur, par culpabilité ou par honte. Tôt ou tard, nous ressentirons les conséquences d'une bonne volonté fatiguée, de la part de ceux qui font ce que nous leur demandons parce qu'ils redoutent une punition ou une forme ou une autre de culpabilisation. Et aussi, à chaque fois que les autres nous associent dans leur esprit avec toute forme de culpabilité, de peur ou de honte, nous diminuons les chances qu'ils répondent avec compassion à nos besoins et à nos valeurs dans le futur. Le lien entre langage et violence est le sujet des recherches du professeur de psychologie O.J. Harvey de l'Université du Colorado. Il a choisi au hasard des extraits d'œuvres littéraires de nombreux pays partout dans le monde et il a compté la fréquence des mots qui classent et qui jugent les gens. Son étude fait ressortir une grande corrélation entre l'usage fréquent de ce genre de mots et le nombre d'incidents violents qui surviennent. Je ne suis pas surpris d'entendre qu'il y a considérablement moins de violence dans les cultures où les gens pensent en termes des différents besoins que les êtres humains ressentent que dans les cultures où les gens se cataloguent les uns les autres en bons ou mauvais, ayant raison ou ayant tort, normal ou anormal, et croient que les gens mauvais méritent d'être punis. Ça me fait mal de voir combien, dans les émissions que les enfants regardent à la télévision, les héros, au cours de l'émission, tuent ou tabassent quelqu'un. Walter Wink, le théologien, m'a été d'une immense aide pour comprendre comment tout cela a commencé. Dans son livre « The Powers That Be », entre parenthèses « Sur le pouvoir et la résistance non violente », sans traduction française apparemment, il m'aide à voir que depuis environ 8000 ans, nous avons été programmés pour penser en termes de jugement moralisateur et pour baser notre justice sur ces jugements qui impliquent que si les gens se comportent d'une façon, alors ils méritent de souffrir et d'être punis, et s'ils sont jugés d'une autre façon, alors ils méritent d'être récompensés. Il y a une autre façon de voir, et je suis heureux que nous ayons une chance de l'explorer pendant que nous continuons ici. Cette autre façon est « Ne nous jugeons pas les uns les autres comme bons ou mauvais. Établissons plutôt le genre de rapport entre nous où nous continuons à contribuer au bien-être de l'autre. » Maintenant, je voudrais vous donner un aperçu de quelques autres manières dont nous avons été éduqués à communiquer et à influencer les autres que je trouve tristes, qui à mon avis contribuent à beaucoup de douleurs. Une de celles-ci est de nous comparer aux autres. Dan Greenberg, dans son livre « How to make yourself miserable », entre parenthèses, encore pas de traduction française apparemment, montre avec humour le pouvoir insidieux que cette façon de penser peut avoir sur nous. Il suggère que si les lecteurs ont le désir sincère de se rendre la vie vraiment déprimante, une bonne façon d'y arriver est d'apprendre à se comparer aux autres. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec cette pratique, il offre quelques exercices. Le premier comporte des photos d'un homme et d'une femme qui incarnent les canons de la beauté physique selon les médias contemporains. Les lecteurs sont incités à prendre leurs propres mensurations et à les comparer à celles imprimées sur les photos des spécimens attirants, puis à méditer sur les différences. Cet exercice atteint le but promis. Nous commençons à nous sentir malheureux en effectuant ces comparaisons. Alors que nous sommes aussi déprimés qu'il nous semble possible de l'être, en tournant la page, nous découvrons que ce premier exercice, nous amener à nous comparer aux autres physiquement, n'était qu'un échauffement. Puisque la beauté physique n'est que superficielle, Greenberg nous offre maintenant une occasion de nous comparer sur des aspects plus importants, comme nos accomplissements dans la vie. Il se sert de l'annuaire téléphonique pour donner au lecteur quelques individus pris au hasard avec lesquels se comparer. Le premier nom qu'il dit avoir sorti de l'annuaire est Wolfgang Mozart. Greenberg fait la liste des langues que Mozart parlait et des pièces principales qu'il avait composées une fois atteint l'âge adolescent. L'exercice demande alors au lecteur de se souvenir de leurs propres accomplissements au stade de vie auquel il se trouve actuellement, et ensuite de les comparer à ce que Mozart avait accompli lorsqu'il avait 12 ans, et de méditer sur les différences. Même les lecteurs qui n'émergent jamais de la déprime auto-infligée que cet exercice produit pourront voir à quel point cette façon de penser bloque la compassion, autant pour soi-même que pour les autres. Une autre sorte de communication qui nous déconnecte de la vie et qui contribue à une grande souffrance est le rejet de responsabilité. Cette sorte de communication brouille notre conscience que nous sommes chacun responsables de nos propres pensées, de nos ressentis et de nos actions. L'usage courant de l'expression « il faut » ou « on doit » comme dans « il y a des choses qu'on doit faire, qu'on aime ça ou pas » illustre comment notre responsabilité personnelle pour nos actions est obscurcie par ce genre de langage. Ou encore la phrase « ça me fait » ou « tu me fais » comme dans « « tu me fais me sentir coupable » est un exemple de la façon dont le langage facilite le rejet de notre responsabilité quant à nos propres ressentis et nos propres pensées. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bonheur pour tous. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et passez sur iTunes pour lui mettre une note s'il vous plaît, pour que plus de gens soient au courant. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou vos questions sur bonheurpourtous.info ou sur la communauté Google Plus du podcast et comme ça entrer en contact avec des gens qui, comme vous, veulent participer à aller vers plus de bonheur pour tous. Et sur le site bonheurpourtous.info, vous avez aussi la possibilité de soutenir le podcast en faisant un don. Ça m'encouragera pour la suite. Dans le prochain épisode, on continuera avec le chapitre 5 de la communication non violente. À bientôt !